Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time saison 4, épisode 16, épisode dédicacé à Aïssa et Damien du dépôt qui se reconnaîtront. Alors au sommaire ce soir, on parle de football avec bien sûr... le Prune Football Club Ligue 1 Foot Étranger Champions League. En deuxième partie, le handball avec #time, les résultats du H et les exploits des filles. Dans le score en stock, on détaillera les autres résultats des clubs nantais. Et puis dans Multizone, la Champions Cup de rugby, le tour du Pays Basque et les Masters d'Augusta. Pour parler de tout ça autour de la table, on commence à droite avec Charles. Salut mon pote, comment tu vas bien ?
Bah, salut Matt, salut à tous, ça va très bien.
Et puis à côté de moi, c'est Jean-Marc. Salut mon pote.
Salut, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
On n'oublie pas Lucien.
Salut à toutes et à tous.
Et puis derrière les platines, c'est Antoine.
Bonsoir.
Bon, eh bien, on y va avec le Prune Football Club, Antoine.
Le Prune Football Club, FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Allez, chronologiquement, on revient sur la Ligue des Champions. C'était mardi, mercredi et on s'intéresse à l'exploit du PSG qui est allé s'imposer en terre bavaroise, mon Lulu.
Et
3 buts à 2,
ouais, c'est un très très beau match. Alors c'était compliqué, hein. Le Bayern, on a quand même subi, on a beaucoup subi, les Parisiens, je crois qu'on a fait 31 tirs je crois.
Subi mais ouvert le score et même mené 2-0.
Alors par contre oui, Mbappé à 3ème minute, alors il a été beaucoup critiqué. Quand même, il répond présent dans les grands rendez-vous, hein, contre le Barça à l'aller, contre le Bayern au retour.
Contre efficace, le Bayern à l'aller, excusez-moi. Son face à face avec Neuer.
Ouais.
Hein.
Ouais, très efficace.
Fusillé
alors...
à 16 mètres.
Bah, même si Neuer fait une petite erreur demain.
Il fait une grosse erreur.
Mais... Ouais, il en fait de plus en plus des erreurs, Charles.
Par contre, à contrario, son homologue, hein, dans les buts du PSG, Navas, lui, était parfait. Hein. Il a fait 10 arrêts. Il en avait fait déjà 9 contre le Barça.
Devant tout le monde, j'allais te le dire. C'est encore l'homme du match. Hein.
C'est la grande muraille du Costa Rica.
C'est hallucinant. C'est le deuxième joueur du PSG qui a touché le plus de ballons. Le premier, c'est Gueye, Idrissa Gueye, qui a d'ailleurs fait un très bon match aussi.
On a retrouvé l'Idrissa Gueye du Real Madrid. L'année dernière, qui avait fait un excellent match de phase de poule.
Neymar aussi, hein, Neymar, voilà, qui avait pris un rouge, je crois, en championnat contre Lille. Mm. Donc on attendait un peu de voir le match qu'il allait nous livrer. Bon, 2 passes décisives.
Dont l'ouverture géniale pour Marquinhos, qui bat Neuer en face à face, tel un grand attaquant.
Ouais, ah, mais il est brésilien. Hein.
Mais c'est vrai que c'est assez particulier comme match parce que on n'a pas l'habitude de voir le PSG comme ça. Là, ils ont vraiment fait preuve d'une très grande efficacité.
Mais en fait, moi, ça me rappelle un petit peu le PSG Bayern de phase de poule il y a 2-3 ans où effectivement, c'est le Bayern qui avait totalement la possession et le PSG finalement avait été resté un peu derrière, jouait la contre-attaque sur la vitesse, sur la technique de ses joueurs, il avait gagné 3-0. Mais là, bon, on gagne que 3-2 parce que quand même, c'est le Bayern. Hein. Ouais. Mais c'est un petit peu. Cette méthode qu'utilise le PSG contre des équipes qui sont très joueuses et contre les gros calibres. Et résultat, ça a très bien marché. Hein.
Alors après, il faut noter quand même qu'il y avait des absents, hein, côté bavarois. Hein,
côté
Lewandowski n'était pas là. Ouais, mais bon, Lewandowski quand même. Gnabry. Donc voilà. Mais c'est un très bon résultat. Pochettino a joué en 4-2-3-1. C'est un coaching plutôt payant. Hein. Il a choisi de marquer des buts. Il savait aussi qu'il allait en prendre, forcément. Mm. Le but, c'était d'en marquer plus que l'adversaire. Coaching gagnant, voilà. Il a réussi... le match qu'il voulait.
Avec un choix surprenant, ça reste quand même Draxler. qu'on ne voyait plus avec Tourelle depuis quand il était encore là, et depuis avec Pochettino, il le relance un petit peu et on voit que ça fait quand même des différences parce que c'est lui qui lance Di Maria sur le troisième but. Donc, Draxler revient bien avec Pochettino.
Même Dagba. Hein. Dagba ouais. À la place de Kerrer. Alors, Dagba, il s'est fait un peu manger quand même, on va pas se mentir, hein, par Coman en première mi-temps.
Un peu beaucoup.
Un peu beaucoup. Mais par contre, voilà, on a vraiment vu un mort de faim. Il était.
C'est ça qu'on attend. Ouais, c'est des joueurs qui sont pas du niveau de Kimmich, mais qui, dans ces deux genres de matchs, faut aller à fond, faut aller défendre. Attaquer, il faut tout donner et c'est là où ils ont fait la différence.
Hein. Ils ont pris une très bonne option quand même pour la qualification. Ce n'est pas encore fait, évidemment. Ouais,
c'est ce que j'allais te dire. Paris est tranquille avec 3-2 à l'extérieur.
On n'est jamais tranquille. C'est aussi ce qui fait la beauté du foot, c'est qu'on peut. Tu l'as bien vu sur ce match, hein, Bayern domine et pourtant le PSG sort vainqueur. On n'est jamais tranquille.
Toutes les équipes sont quand même qualifiées quand ils ont gagné 3-2 à l'extérieur au match aller.
95%.
Il y a eu leur montada, donc on était sûr aussi qu'ils allaient se qualifier, ils sont pas qualifiés. Donc c'est on sait jamais, mais c'est une.
Ouais, Jean-Marc, on t'a pas entendu.
Moi, les garçons, je vois un gros problème, c'est l'absence de Marquinhos, qui est sorti sur blessure, et ça va être très embêtant. Parce que pour moi, l'important, comme d'autres d'ailleurs, j'ai entendu, ça sera la défense. Parce qu'on peut se dire, bon, allez, ils vont gagner, ils vont marquer plein de buts, mais bon, si tu perds de 2 buts, c'est mort, hein.
Mais c'est vrai qu'en plus, d'ailleurs, ça a été officiel aujourd'hui, Marquinhos est indisponible
pour
demain.
Ouais, Kurzawa aussi, un troisième, sais plus lequel.
Ça sera peut-être
Il est méchant avec Kurzawa.
Il y a 3 forfaits pour ce match. Bon, ceci dit, pour que le Bayern se qualifie, il leur faudrait gagner 2-0 ou 3. Hein, donc,
oui, mais c'est pas impossible du tout. Hein,
oui. Certes, c'est pas impossible, mais bon.
Mais voilà. Ils ont aussi énormément
C'est le résultat
le Bayern,
évité pour
4-2 ou 5-3, ou même 8-6, ils l'ont déjà fait.
Après, c'est vrai que je sais pas... Pochettino, ce qu'il va mettre en place, est-ce qu'il va mettre formation
Ça arrive vite.
À mon avis, il va remettre, parce que Paredes est revenu, il va refaire descendre Danilo comme il a fait quand il a fait rentrer Herrera au match ce mardi. Et il va remettre Paredes à côté de Gueye, à mon avis.
Puis Mbappé est plutôt en forme, hein. Il l'a prouvé après en Ligue 1, on va y venir après, mais voilà, c'est quand même.
Bon, mais on y croit. Bon augure.
Ah, mais on y croit carrément. Si on n'y croit pas là, on y croit quand?
Si on n'y croit pas là, ouais, c'est ça. Hein. Quand tu gagnes 3-2 à Munich, tu peux que y croire. Forza Paris, c'est dit les autres résultats. Alors, on avait un City Dortmund, belle affiche. Ça.
City Dortmund, 2-1 pour City. Alors, c'était très très serré. Hein. De Bruyne a ouvert le score. Marco Reus.
Comme du match, De Bruyne.
Il a fait un très bon match.
Excellent.
Marco Reus qui égalise à la 84e minute et c'est Foden qui marque à la 90e. Donc, voilà.
Ah, c'est un match qui a été large parce que pour l'avoir regardé, c'est un match que City a maîtrisé, a pris quelques occasions. Comme c'est normal dans chaque match, mais on a senti qu'ils n'avaient pas tué le match et que Royce avec la bonne déviation d'Haaland en profondeur, ils ont réussi à faire le petit coup. Ils ont réussi à réaccélérer.
Il y aura un match intéressant mercredi à Dortmund.
Attention à la surprise.
Vrai que City, c'est assez ça, tu sais, quand ils sont un peu c'est équilibré au niveau du match, ils ont du mal à jouer alors que. Quand ils commencent à mettre 2-3 buts, là, ça peut monter,
Après, ils ont pas tué le match. Ils avaient largement d'occasions. Ils jouent à Foden au point de pénalty. Il est seul quasiment face au but, avec le ballon en retrait, là. C'était De Bruyne, je crois, d'ailleurs. Mais ils ont eu des occasions pour tuer le match. S'ils les mettaient, c'était fini. Bon, il reste encore un match retour, on sait jamais. Mais je vois quand même City part quand même favori. Parce qu'on sait qu'ils vont mettre des buts à Dortmund.
PSG City, ça serait sympa, je crois.
Plus serré que ça, quand même. À Dortmund, même s'il n'y aura pas le mur jaune.
Mais après, c'est ce que dit Riyad Mahrez, qui voulait que ce soit PSG City.
Oui, je sais pas si ça a déjà été.
Il y a quelques années, en 8e.
Non, quart de finale.
Ou quart. Quart, pardon. Moi, ce qui va m'intéresser comme match, c'est le match retour de Liverpool-Real Madrid à Anfield.
Ouais, j'ai envie de te dire, attention, Liverpool, ils sont pas dans la forme de leur vie.
Ouais, je pense que... Ouais.
Même si, avec les Reds, faut se méfier, ils l'ont déjà fait. Hein, ils avaient renversé le Barça 4-0.
Ils l'ont déjà fait, mais là, c'est compliqué cette saison. Hein. Et le Real, à l'inverse, là, ils sont vraiment sur une pente hyper ascendante.
Ils viennent de reprendre la tête de la Liga.
Ils viennent de gagner le Classico.
Ils sont deuxième.
Mais qu'un point de retard, on en parle tout à l'heure. Ils ont qu'un point de retard sur l'Atlético.
Ils ont des joueurs en pleine bourre.
Benzema en pleine forme, ils ont des joueurs vraiment en confiance.
Vinicius pareil, en pleine bourre.
Moi, je me dis que, attention, faut pas enterrer Liverpool parce que le 3-1, s'ils n'avaient pas pris le but, le Real, je te dirais, s'ils avaient gagné 3-0 à l'aller, c'était plié.
Même là, pas, je te dis, 3-0 au Barça il y a deux ans, ils leur en mettent 4 au retour, tu te rappelles?
Oui, donc tu vois, rien n'est jamais fait,
c'est vrai
qu'avec... pas les
enterrer. C'est vrai qu'ils ont aussi des joueurs de qualité quand même, Salah,
c'est pas le même Liverpool, non.
C'est défensivement, Liverpool, c'est quand même assez catastrophique cette année, hein, parce que ils ont ni Van Dijk ni Matip, ils ont plus personne, et donc forcément derrière quand tu mets Kabak Phillips, ça va être pour gagner la Ligue des Champions ou même pour passer contre le Real Madrid, c'est quand même très très.
Après d'un côté il leur reste que ça, hein, parce que là en championnat c'est mort, donc tu vois le Real ils sont encore en lice la Liga.
Liverpool joue quand même la qualification pour la Ligue des Champions, ils sont pas sûrs d'y aller, donc faut aussi qu'ils sont sans sur la première ligue, donc. À mon avis, le Real Madrid va quand même passer.
Ça sera mercredi et le vainqueur de ce match-là, eh ben, il prendra Chelsea ou Porto. Les Blues ont été gagnés 2-0 au stade du Drago. Ouais. Le break est fait.
Le break est fait, mais attention à Porto. Quand c'est ça, on peut sortir sa baguette magique. Et on sait que Porto, bah, face à la Juventus, ils ont été très bons. Ouais. Alors, ils ont fait un gros match en plus là-bas. Donc, on sait peut-être que... à Stamford Bridge, ils pourront faire quelque chose. Ça va être compliqué, mais il ne faut jamais en tirer pour tout.
Moi, d'autant que Havert et Werner sont plutôt en forme, les deux Allemands.
Je vois surtout Chelsea passer.
Des Blues. Bon, ben, comme on a dit, c'est demain et ça va être super intéressant. Ouais.
Alors, demain, c'est le PSG PSG-Bayern et Porto-Chelsea.
21h. Allez, on parle vite fait de la Ligue 1, avec embouteillage en tête de classement. Ouais. Les garçons, hein, on a vu que on a 4 équipes qui se tiennent en 4 points.
Ouais, c'est hyper serré. Ouais. Lille est allé gagner à Metz 2-0. Le PSG, donc on les attend.
Dans la douleur, hein.
Dans la douleur, mais ça va être.
Ça a été compliqué
un peu comme
pour
ça
les
jusqu'à
dogs.
La fin de saison.
Ils peuvent remercier leur gardien d'avoir arrêté un pénalty en début de match.
Maignan,
très grand match de Mike Maignan.
Je me demande s'il n'est pas devant Lloris actuellement, même. En termes de niveau de jeu. Alors en équipe de France, il n'y sera pas parce que Deschamps, voilà, et puis Lloris, c'est un cadre, c'est un mec
c'est
dans les vestiaires aussi, c'est le capitaine. Mais actuellement, Maignan, franchement, il est hyper impressionnant.
Il est très solide, c'est un des meilleurs gardiens français. Si Tottenham s'intéresse sur lui pour remplacer Lloris, c'est pas pour rien.
Deschamps devrait l'emmener à l'Euro.
Deschamps va l'emmener à l'Euro avec Lloris, sans doute. Oui, c'est sûr. Avec Mandanda, ça va être les trois gardiens qui y seront. Ça, c'est sûr. Mais ça peut être le futur de l'équipe.
C'était vendredi soir et pareil, il devait absolument réagir s'il ne voulait pas faire une croix sur le titre. Ouais. Hein, et ce déplacement à la Méno à 17h samedi.
Bah, 4.
Pourtant, on connaît que le Paris Saint-Germain a des difficultés souvent à la Méno. Hein, Strasbourg fait
souvent
la résistance.
Et surtout, entre deux matchs de Coupe d'Europe, c'était un peu le week-end piège pour eux.
Exactement. Et finalement, ils sont très bien débrouillés. Mbappé a fait la différence. Bon,
c'est la meilleure des préparations au final.
Exactement.
De gagner en championnat. T'accumules de la confiance en plus, tu fais pas de faux pas, t'es encore en course pour le titre. Voilà,
ils avaient fait tourner, Moïse Kean qui rentre, qui met un but. Non, c'est bien, c'est
mais en plus, Sarabia qui met un but aussi. Après, l'avant plus, le fait que Neymar n'ait pas joué, ça, il sera quand même en forme.
Au moins, il s'est pas blessé.
Exactement.
Ouais. Surtout ça.
Après, est-ce que Mbappé est sorti qu'à la 89e?
Ouais, alors d'ailleurs, ça a fait un peu débat parce que. Mais bon, après,
il
est jeune.
À chaque fois, il faut relancer du débat, mais il a besoin de jouer.
C'est ça, il a besoin de jouer. Puis attends, il a quel âge? Il a 21 ans.
Neymar, faut le mettre dans du coton tous les trois matchs, ok, mais pas Mbappé.
Puis il a 21 ans, il a envie de jouer. Il veut jouer, tu récupères. Attends, ils ont joué quand? C'était samedi qu'ils ont joué. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Il a 3 jours pour récupérer.
Ouais, mais
à cet âge-là, quand même.
Plus tôt, parce qu'on sait jamais. Quand même.
Autre match de samedi, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus intéressant, je dirais, sur le scénario.
Ah
spectaculaire.
Oui.
Notre habituel Montpellier-Marseille, qui a encore eu un scénario incroyable, et ce match nul, 3 partout.
Ouais. Un but de Laborde à 93e.
Magnifique tête plongeante, superbe.
Et Sampaoli a un bon bilan depuis qu'il est arrivé, quand même.
Ouais, c'est. Je crois
en termes de jeu, est-ce qu'on a vu une évolution, par contre? Les résultats, c'est une chose, mais bon, il était arrivé pour un peu nous faire un jeu à la chilienne, quoi.
Il y a du but.
Des buts. Après, ils ont vraiment pas de chance parce qu'en plus, ils prennent un carton rouge. Ils arrivent au moment où il y a deux partout. Ils arrivent à marquer un troisième but
3-2,
avec Lucas Perrin.
Hein.
Et là, ils se prennent un but à la toute fin. C'est vraiment dommage parce qu'en plus, ils avaient fait vraiment de la bonne résistance. Il y avait même des occasions pour mener 4-2. C'est vraiment pas de chance pour Marseille. C'est bien vu pour Montpellier qui, comme ça, leur permet d'espérer peut-être pour la Ligue Europa. Donc,
le paquet, l'OM pour l'Europa League, hein, c'est bien.
Il y a eu beaucoup de buts dans cette journée. Saint-Etienne qui bat 4-1 Bordeaux. Donc Bordeaux.
Merci du l'arbitre avec tous ses pénaltys. 3 pénaltys dans le match.
Ouais, triplé de Cazerie.
La crise couve à Bordeaux. Hein. Ça sera pas la relégation cette année, mais il faudra se méfier pour l'année prochaine.
Jean-Louis doit être agacé.
Lens qui gagne 4-1 aussi, hein, Lens, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très costaud cette saison.
Lens a coché l'Europa League et devrait pas, devrait la jouer aussi l'année prochaine.
C'est quand même le promu. Quoi. Enfin, c'est...
Là, il y a vraiment un petit matelas.
Sauf
sur
que derrière,
le 7e.
Il y a une vraie stratégie politique, sportive. Et résultat, ils font des recrutements intelligents. Et bah, comme quoi ça marche. Hein, dans
et sans
football,
public,
hein.
Parce que aussi, Dieu plus. Sait comment le public, l'ensoi, est important.
Donc, non.
Ça. Mais dans cette course-là, il y a aussi Rennes qui a battu Nantes 1-0.
Ouais.
Un match insipide. Avec très très peu d'occasions, et puis...
Si vous voulez des somnifères, remettez-vous en replay le match.
Pas grand-chose à dire.
Non, après le but de Terrier est magnifique, mais bon, c'est parce qu'il y a une erreur de Korchia et de Louza qui ne le marque pas sur ce coup-là. Il est tout seul, il a le temps, c'est un joueur technique, il a le temps de placer son ballon, pas normal.
L'avant-dernier, quoi.
Ouais, pas normal. De toute façon, c'est le FC Nantes de cette année, hein.
Dans la foulée, on a vu que Nîmes a été prendre un point à Brest. Et ça fait deux points d'avance pour les crocos maintenant sur les Nantes, Canaries. Ouais.
Surtout qu'on joue Lyon. On joue Lyon dimanche prochain.
Alors là,
oui, alors après,
Lyon qui est dans la course au titre.
On n'avait pas prévu que Nantes aille gagner à Rennes, pas plus qu'ils aillent gagner à Lyon. Faudra être fort à Brest. Faudra être fort sur des matchs comme Dijon. Mais ça suffira peut-être pas.
Le seul exploit de leur fête de la saison se résume au Paris Saint-Germain. En fait, hein.
Ça fait toujours du bien d'aller faire un tour en Ligue 2. Parce que si c'était pas. Si le maintien, c'est pour cette année, l'année prochaine, ça sera la relégation. Ça couvre depuis
après,
trop,
l'année prochaine,
trop longtemps.
Ça sera aussi une autre saison. Tu vois, il y aura peut-être le retour du public. Enfin,
Je sais pas. Après, il faut voir parce qu'il y a énormément de clubs qui sont descendus en Ligue 2. Qui remontent pas. Hein. On pense à Caen, à Guingamp qui arrivent pas. Hein. Donc,
on croise les doigts quand même
on descendra
les Canaries.
Jusqu'en National et on se fera des petits matchs contre Laval. Et là, je suis fan.
Ah ouais, j'adore Laval.
Juste au haut de tableau aussi, parce qu'on parlait que c'était un peu une lutte assez serrée. Monaco a gagné 3-0 contre Dijon.
Il reste un point derrière les Parisiens, donc potentiellement titrable l'ASM.
Ben Yedder, excellent.
Il y aura un bon match avant la fin de la saison contre Lyon, à bien gérer.
Mais Lyon
et
va
le
enchaîner.
Dernier match de hier soir, après, Lyon
qui a gagné 3-0 à domicile contre Angers, le doublé, Paqueta, une passe décisive et un but. C'est vraiment les deux joueurs qui sont au-dessus du lot à Lyon, on le sent. Et ça fait très bien le travail. Paqueta exceptionnel, 3 buts en 3 matchs sur les, et tout. C'est vraiment Lyon là, ils sont remis enfin parce que ça faisait ils enchaînaient sur une période un peu négative. Là, ça va être peut-être la relance pour la fin, pour le sprint final et là ça peut faire de beaux résultats, sachant qu'ils vont à Nantes, ils reçoivent Nantes la semaine prochaine. Après, ils reçoivent Lille, ils vont à Monaco. Là, ça va être le calendrier décisif pour l'Olympique Lyonnais si jamais il veut l'espérer lui.
Ça va être sympa.
Ouais, on a vu à Monaco, hein, ça marche bien avec Ben Yedder, comme disait. Et Voland, l'Allemand, qui est sur une belle saison.
Ben Yedder, en plus, Kovac, il a vraiment réussi à mettre une stratégie en place parce que Ben Yedder, qui est quand même un joueur super important, il est souvent remplaçant. Il le fait rentrer. Je sais pas, dans les 25 dernières minutes, il marque des doublés, des.
Bah ouais, c'est Jovetic qui démarre en général et Ben Yedder qui termine.
Et Ben Yedder ne dit rien.
Il marque des buts, ça marche.
Ouais, mais tu vois, il pourrait dire je marque des buts, pourquoi tu me fais pas jouer tout le match.
Ouais, mais il a affaire à lui un entraîneur avec du charisme, mais c'est très bien pour une fois que les joueurs décident pas à la place des entraîneurs. Et puis il a fait revenir, moi je vois, c'est Golovin, le russe.
Ah bah ça, c'est un joueur exceptionnel qu'on avait vu la Coupe du Monde 2018. C'est un joueur technique, il sent le football. C'est vraiment un excellent joueur et là maintenant qu'il est il a plus ses blessures, ça se ressent sur le jeu de Monaco.
Il y a vraiment de la qualité. Moi je mets une caisse sur Monaco d'ailleurs.
Mais Monaco
pour le titre, on est à 6 journées de la fin. Si je vous demande votre favori rapidement.
Bah, je vais pas être original, moi je vais dire le PSG, mais parce que au vu du calendrier en fait, parce que le PSG a un calendrier beaucoup plus favorable que ses concurrents. Lille, on sait qu'ils sont là en ce moment, c'est des victoires un peu. C'est difficile d'aller gagner. Là, je crois qu'ils jouent Montpellier la semaine prochaine. Montpellier, on sait que ça marque. On sait que voilà, il est en Laborde. Moi, je dirais le PSG. Je vais pas être original. Hein, mais...
Le PSG, ça me suffira.
Bah, moi, je vais dire les spécialistes du sprint final, l'Olympique Lyonnais.
Lyon, très bien. Jean-Marc,
je te réponds la semaine prochaine.
Ok, moi, allez, je mets une pièce. Allez, pourquoi pas Monaco.
Ok. Les avis sont divers et variés.
Ouais, bah écoute.
Ça promet d'être une fin de championnat.
Sur l'étranger vite fait avec des affiches, les garçons.
Ouais, bon. Le classico pour la Liga, le Real qui s'impose.
C'était samedi 21h hein, au Bernabeu.
Bah, pas vraiment Bernabeu parce qu'il en a pas.
Toujours dans leur stade d'échauffement de la.
Alfredo Di Stefano. Merci pour l'aide, les gars.
Et on a vu un Real Madrid gagner ce classico 2-1.
Ouais, super Magyar de Benzema pour ouvrir le score.
Ouais, clairement. Ouais.
Ah bah oui, on l'arrête plus.
On a vu un très. Au contre-attaque avec Valverde, Vasquez. Et puis là, le centre avec la Magyar magnifique de Benzema. Bon, que dire, on connaît le joueur, on connaît son talent.
Il recolle à un point.
Ils avaient pris la tête avant le match de dimanche soir entre
l'Atlético
et le Betis. Et puis, bah, un partout. Donc du coup, au classement, on a dit Atlético 67, Real 66 et Madrid et
Barcelone 65.
Ouais, c'est serré là.
Bon, il n'y a plus d'avance pour l'Atlético. Ils ont tout cramé.
Je pense qu'ils vont lâcher l'Atlético.
Ils vont peut-être pas lâcher, mais en tout cas, ils ont un point d'avance. Ils ont leur destin en main.
Il reste 8 journées en Espagne.
Ouais, bah, mais l'Atlético là, ils sont sur une pente descendante depuis 2021. Je sens que ça commence à être.
Ouais, alors que les autres en plus.
Avec les autres, alors que
Barça est débarrassé de la Champions, ça peut faire des dégâts. Ouais, dommage pour l'Atlético. Mais c'est pas fini, on y croit.
Mais la petite statistique, c'est que le Barcelone n'a pas remporté de championnat quand ils ont perdu les deux classicos dans la même saison. Ils les ont perdus les deux. Alors
donc,
là,
tu mets toutes tes pièces, on a compris, sur le Real Madrid. On passe à l'Italie.
En Italie, on a vu que l'Inter va assurer le Scudetto. Hein.
C'est bon, c'est fait. Hein.
19e un truc comme
19e Scudetto pour les Nerazzurri.
La Juve aussi, qui lâche pas. Hein. Ils remontent sur le podium.
Bah, ils sont un point derrière Milan.
Avec leur victoire 3-1 sur le Genoa. Mais le Milan AC a été gagné 3-1 à Parme.
Exactement.
Et c'est le Napoli qui complète le strapontin pour la Ligue des Champions.
Avec s'imposer 2-0 contre la Samp.
C'est l'Atalanta Bergame qui a gagné
3-2 contre la Fio.
Qui remonte et juste à 2 points du Milan. Donc ils sont aussi dans la course. Comme le Napoli qui est à 59 points juste derrière. Ça va être une course un peu à 4. Pour les 3 places en Ligue des Champions.
C'est vraiment la confirmation, ce club de l'Atalanta. 3-4 ans maintenant, qui chasse le podium, ou en tous les cas, les places pour la Champions League. Pour un petit club qui n'avait jamais joué jusqu'à il y a 2 ans,
certains clubs français devraient s'en inspirer de leur méthode, de leur fonctionnement, parce qu'ils n'ont pas non plus un budget pharaonique.
Tu veux comparer avec Nantes, c'est ça, mais...
Ils
n'ont pas 3 entraîneurs par an, en moyenne.
C'est sûr.
Allez, les garçons.
Ils ont un projet.
Première Ligue, peut-être
J'étais passé à l'Allemagne, mais vas-y.
Leeds, qui s'est imposé à City 2-1. Donc, c'est une belle surprise, quand même. L'équipe de Bielsa remonte dans la première partie de tableau.
Après,
9e, je crois.
Mais après, il faut quand même pondérer avec le fait que Guardiola a énormément fait tourner.
Mais ça reste un succès face au leader.
Exactement.
Liverpool qui gagne 2-1 Aston Villa, Chelsea 4-1 contre Crystal Palace, West Ham 3-2 contre Leicester, Man United 3-1 contre Tottenham.
Très beau match de United sur la pelouse de Tottenham.
Et Arsenal 3-0 contre Sheffield avec un doublé de notre français Alexandre Lacazette.
Et West Ham qui
c'est ça que je voulais dire.
Quatrième.
West Ham est quatrième. Ça fait plus de 20 ans que c'est pas arrivé.
Je crois un point du podium en plus.
Ils sont à un point du podium derrière Leicester avec un doublé de Lingard. Lingard qui renaît complètement avec West Ham depuis
ancien de Manchester United.
Exactement, une petite dédicace à Quentin d'ailleurs.
Là c'est pareil en première ligue. City a 74 points, Man United en a 63.
City va gagner le championnat, United deuxième, et là ça va jouer entre Liverpool, Chelsea, West Ham, Leicester pour la qualification.
City, on a dit Inter, on a dit Bayern, ça devrait être champion dans les grands championnats.
Justement, alors le résultat le en Bayern. Bundesliga, la petite surprise c'est que Union Berlin a été chercher un très beau match nul, un but partout sur la pelouse du Bayern. Dans le même temps, Francfort continue de nous étonner avec une victoire 4-3 sur Wolfsburg. Leipzig fait le job, il gagne 4-1 sur le terrain du Werder de Brême, au Weserstadion. Et puis Dortmund fait le job en allant s'imposer à Stuttgart 3-2.
Moi, je pense qu'on peut applaudir Schalke 04 qui remporte une deuxième victoire cette saison.
Ça
se fête.
Mais pour moi, par contre, le Bayern, je sais pas tellement une surprise parce que je pense qu'ils avaient. Enfin, ils s'en foutaient en fait.
Oui,
ils,
non,
ils ont
ils
carrément
ont,
déjà
ils ont peut-être
le match
mis un peu
du
mais
PSG.
Bayern.
Et sachant qu'ils ont eu pas mal de blessés, Coman est sorti à la mi-temps. Il y a 2-3 incertains pour le PSG comme et tout. Donc le Bayern est quand même pas mal de blessés en ce moment, hein, entre Gnabry qui sera pas là, Lewandowski ne sera pas là, Tolisso ne sera pas là. Ils ont pas mal d'absents et d'incertains. Donc ça peut bénéficier au PSG.
Pas de classement pour les Allemands. Mayence qui sort de la zone rouge en allant gagner à Cologne 3-2. Et du coup, c'est Cologne qui se retrouve relégable avec évidemment Schalke qui va descendre.
Allez, on ferme la page football, Antoine, et on part sur le hand, c'est Hashtime.
Hashtime, Money Time. Toute l'actualité du HBC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, info, interview.
Hashtime.
Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et le H, bien sûr, à l'affiche dans Hashtime avec cette superbe qualif. On revient dessus tout de suite. Qualif sur le parquet du champion de Pologne, qui le sait, le H qui allait s'imposer 34-31 après donc avoir perdu le match aller 25-24, 8 jours avant. Alors Jean-Marc, exploit, hein, parce qu'on n'attendait pas les violets à Paris Fête, hein, face à un Cador européen. Nantes qui a maîtrisé son sujet, et notamment la première période en tout cas, avec les arrêts décisifs d'Emile Nielsen.
16 sur le match pour Emile Nielsen. Il a fait un très beau match retour. Déjà, il a fait un très bon match aller. Hein. On se souvient que Nantes avait perdu d'un tout petit but 25-24 à la H Arena.
Et l'espoir était de mise, hein, puisque même Thibaut Brier, l'arrière droit,
que tu as eu en interview,
Lucien avait déjà donné la tendance, ouais. Et la tendance était que cette victoire était dans les cordes des violets.
Ouais, exactement, je pense que c'est important de façon d'y croire. Si le groupe n'y croit pas, ça pouvait pas faire ce résultat-là. Et on a vu dès le début du match qu'ils sont vraiment bien rentrés dans leur match. Hein. Tout le match, je crois, ils ont mené de 2-3 buts à peu près. Emric Mine, il revenait de blessure. Il a mis 6 buts en première période. Il finit à 8 buts. Rivera, bon voilà, on sait qu'il est souvent impeccable. Il a mis 9 buts. Cavalcanti aussi, c'est quand même une petite surprise parce que
très,
voilà, cette
très
saison,
belle fin de match de Cavalcanti.
C'est un peu compliqué.
Mine, tu as raison effectivement d'appuyer dessus puisque c'est lui qui ramène l'équipe à 24-24 quand les Polonais étaient passés devant et qui même redonne l'avantage à 26-25. Hein, donc, dans le Money Time, on a eu un grand demi-centre.
Mais dans le Money Time, on a tremblé aussi parce que Thibaut Brier prend 2 minutes, il restait je crois 2 minutes dans le match.
Dans la dernière minute.
Et à ce moment-là, les Polonais sont à 1 but.
C'est ça.
Et Tournoi est en feu, hein, puisqu'il enchaîne les buts au poste de pivot.
Alors là, on se dit que c'est compliqué. Au final, voilà, très belle fin de match. Cavalcanti, voilà, très très précieux, hein, évidemment. Nielsen, impeccable dans les buts. D'ailleurs, il a été salué en conférence de presse par le coach de Kielce, Talant Doutchebaïev, ce qui est assez rare venant de lui quand même. Même Nielsen a été surpris. Hein, Talant Doutchebaïev lui a tendu la main pour lui serrer la main. Et Nielsen a été surpris de ce geste. Et,
Monsieur
voilà,
Talant Doutchebaïev, je vous en parlais un tout petit peu juste après. On finit pour pas couper le truc. Moi, celui qui m'a bien plu aussi, c'est Dragan Pechmelbek.
Ah, bah, il est toujours impeccable, Dragan Pechmelbek. C'est un modèle d'efficacité. Enfin, c'est assez hallucinant cette saison.
À qui j'avais posé une question à l'issue du match aller, c'est-à-dire comment on marque Alex Doutchebaïev, un des meilleurs joueurs du monde.
J'essaie de dire aux jeunes de pas essayer de communiquer avec lui parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans le duel psychologique. Il va parler avec les arbitres, il va parler avec les joueurs, il rigole. Et puis quand tu baisses ta garde, il en profite pour prendre un intervalle ou te tirer sur la tronche. Donc il faut essayer de ne pas rentrer dans son jeu.
Donc il avait bien fait passer le message à ses coéquipiers. Et c'est vrai qu'il a été bien muselé sur le match retour. Il a été beaucoup moins dangereux qu'on aurait pu s'y attendre. Et c'était autrement Nicolas Tournat que je voulais écouter, qui nous avait raconté à l'issue de son match aller.
À un moment donné, on revient à 14-12 avant la mi-temps. Et c'était un moindre mal parce qu'on n'était pas vraiment dedans. Et après, on recommence bien la deuxième mi-temps, comme a dit Alberto tout à l'heure, et c'est ce qui nous a remis dedans. Et voilà, c'était parce que je sais comment on joue ici. Et je sais que c'est dur de venir gagner ici.
Le suspense demeure, Nico, pour le match retour avec ce petit avantage de un but. Et quand on sait qu'aujourd'hui, avec des salles vides, c'est pas un grand avantage de recevoir.
Bah, pour moi, c'est aucun avantage. C'est comme si c'était match nul. Un but, c'est rien du tout au handball. Donc c'est pour ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on est à égalité et il va falloir faire un match très, très sérieux et être bien concentré pour gagner.
Je regardais juste un petit peu les allers-retours que vous faisiez sur le terrain et sur le banc. Et tu as l'habitude de te faire tenser comme ça par le coach? Il est comme ça avec tout le monde
Ouais, il est sanguin, mais il parle bien. C'est pas que sanguin, c'est aussi intelligent.
Voilà, ça me permet de rebondir justement. Ce que je voulais, c'est cette phrase du journaliste de France 3, cette petite question à Nicolas Tourna sur Talant d'Ouchebaev. Et je voulais vous en parler un petit peu plus. C'est un garçon qui est né en 68 à Frunze, à l'époque en URSS. Depuis, c'est Bishkek au Kirghizistan. Cet homme-là, c'est une légende du hand. Hein. C'est un des meilleurs joueurs. Il a été élu de deuxième meilleur joueur du monde au 20e siècle. Au 21e siècle, pardon. Et puis, il a été élu deux fois meilleur joueur du monde, en 94 et 96. Champion olympique avec, à l'époque, du coup, la CEI, la Communauté des États indépendants. Champion du monde avec la Russie, du coup. En 95, il a tellement aimé les Jeux de Barcelone qu'il est resté à jouer à Barcelone et il devient espagnol. Il gagnera deux médailles d'argent au championnat d'Europe, 96-98, et deux médailles de bronze en 96 et 2000, aux Jeux olympiques, pardon. Au niveau des titres joueurs, il a gagné une première Ligue des Champions avec le CSKA Moscou en 88. Il en gagnera une deuxième en tant que joueur avec Santander en 94. Et là où il est impressionnant, c'est quand il est devenu entraîneur en 2005. Trois Ligues des Champions avec Ciudad Real, hein, le grand club disparu espagnol. Quatre titres et trois coupes à Sobal pour lui. Après, en 2014, puisque Ciudad Real disparaît, il partira à Kielce, donc en Pologne, où il est toujours, où il est détenteur depuis 2014 de doublé Coupe Championnat. Invaincu, il a gagné tous les titres depuis 2014 et il a également gagné une Ligue des Champions en 2016. Et c'est un personnage, et j'ai une petite anecdote. En 2005, donc il arrête sa carrière en 2005, il revient jouer la Ligue des champions où on retrouve tous les champions de tous les continents. Il va se battre avec un joueur algérien. Il va prendre 5000 euros d'amende, un an d'interdiction et il passera une nuit en prison. Voilà un petit peu le personnage que j'ai toujours adoré, Talant d'Ouchebaev. Et d'avoir battu cet homme-là et son équipe, c'est un réel exploit. Et j'espère que contre Veszprém, ils pourront doubler la mise.
Ouais, une légende du handball avec les Lovegren, Wislander et Richardson dans les années 90. Hein. Ça ne nous rajeunit pas tout ça.
Wislander, il était meilleur joueur du monde. Il a été
meilleur joueur du monde. Merci pour cette anecdote. On continue le road trip du H, puisque après le retour
vol
de Pologne,
Toulouse,
il fallait aller
jouer le Phoenix
à Toulouse. Ouais, c'est ça.
Malheureusement, quand on gagne en Ligue des Champions, on laisse des plumes, hein, on le sait. Et là, samedi, c'était contre Toulouse. On a eu vraiment très très peur. Moi, honnêtement, j'ai regardé le match, je me suis dit, tant pis. Hein,
un bon premier quart d'heure,
mais
la course en tête.
Voilà,
hein, en
mais après, Toulouse, notamment grâce à son gardien, hein, De Almeida, qui fait ses arrêts à 42% au final, ont été vraiment très bons. Nemanja Ilić aussi, on ne le présente plus, a marqué 8 buts, très très bon. Et
8 buts comme Rivera.
Comme Rivera, mais on a vraiment eu peur, parce que je crois qu'il mène de 3 buts à très peu de temps de la fin.
Il met 3 buts, 29-26.
Et les Nantais, voilà, avec une force de caractère impressionnante, sont quand même allés chercher ce match nul.
La victoire sur l'aile, encore une fois, Rivera, qui clôture.
Et Thibaut Brier aussi. Hein,
ouais, j'affectionne un bon tout côté gauche. Hein.
Et moi, ce que j'ai apprécié, alors, bon, je suis déçu un petit peu pour pauvre Cyril Dumoulin, qui avait fait une première mi-temps correcte.
Oui, qui fait 10 arrêts.
Mais du coup, là où il y a la bascule...
10 sur 30, 33%, c'est son meilleur match de la saison.
Ouais. Et c'est qu'à la 45e, il fait rentrer Nielsen et il fait les arrêts qu'il faut, oui. Nielsen.
Bah, et puis Nielsen, c'est vrai qu'il a l'habitude là cette saison, il joue tous les grands matchs importants, il est quand c'est même ça. Décisif. Première partie de saison, il avait quand même un petit peu de mal.
Il a eu du mal en début de saison.
Voilà, mais peut-être c'est... se régler, mais
je
là
crois
maintenant
que c'était
qu'il
aussi
est parti,
une histoire où il était annoncé à Barcelone.
Oui, c'est ça.
Et c'est un peu foutu le bazar.
Ça.
Bon, c'est pas
mais
grave.
Mais du coup, voilà, ce point, bon, au final, ça nous arrange à moitié, hein, parce que au classement, on a 27 points, Montpellier en a 36.
Montpellier ne tira pas les chercher maintenant. C'est
mais
trop tard.
C'est compliqué. Ils ont pour passer devant, il faudrait qu'ils perdent 3 matchs et que nous on en perde.
Non, tu sais que dans ce championnat de France de handball, il faut pas se rater face au plus petit que toi. Ouais. Ça a été fait pour le H malheureusement face à Limoges, c'est deux points qu'on verra plus.
Ouais, et puis Montpellier là sont sur une très bonne dynamique.
Il y a Aix derrière, il faut faire gaffe hein, parce que Aix qui a été gagné
Aix
à Nîmes.
Derrière, ouais. Ouais.
Nîmes qu'on joue demain.
Nîmes qu'on joue demain.
C'est demain.
Demain. Joue demain à 20h45.
Et il y aura match dimanche Dunkerque, je crois, à domicile.
Dunkerque, c'est ça.
Le
Dunkerque
18.
À domicile. Donc là, on n'a plus trop le droit à l'erreur en championnat.
Faut jouer. Après, je vais te dire, Toulouse, je ne suis pas surpris. Hein, l'équipe de Boulgardan, l'année dernière, elle nous avait déjà cassé les pieds.
Ouais, et pourtant, ils ont lâché leur meneur Luckstein qui fait les beaux jours de Paris.
Et qui a prolongé d'ailleurs. Hein. C'était un joker médical à la base et il a plutôt séduit le club de la capitale et ils l'ont prolongé.
Bah, surtout avec. C'était le joker médical de Karabatic. Hein, ouais. Suite à sa blessure. Bon, allez, on reste sur le hand, mais on va parler des filles. Là aussi, des filles triomphantes hein, qui vont jouer pour la première fois de leur histoire, Jean-Marc, un Final Four.
Exactement. Alors, ça ne sera pas le Final Four de Ligue des Champions.
Non, celui-là, il sera pour Brest.
Exactement. On retrouvera Brest, le CSKA Moscou, Gjør, et puis le Viper de Kristianstad, les Norvégiennes. Mais pour Nantes, ça sera le Final Four de l'Europa League. J'ai pour l'instant pas l'endroit.
Ah oui, voilà, j'allais te demander.
On sait que c'est
si
mais... On m'envoie l'info dès qu'on l'a, mais pour l'instant, c'est pas décidé. Où elles vont retrouver aussi une équipe hongroise qui sera favorite comme Gjør en Ligue des Champions, c'est Siofok. Il a déjà gagné par le passé. Ce sera Baia Mare, les Roumaines. Et puis des Danoises, Herning, Ikast. Donc c'est une première, mais après, il faudra voir qui est-ce que tu tires au début. Nantes, donc du coup, c'était la semaine dernière qui a éliminé Zvezda Zvenigorod en gagnant 30-28 après avoir gagné le match aller 33-29. Et moi, ce qui m'a plu, c'est une des anciennes qui arrêtera sa carrière à la fin de saison, Blandine Dansette, qu'on aura peut-être en fin d'année en plateau avec Camille Aiglon, on verra bien. Et je voulais l'écouter pour revenir sur ce match. Avec Blandine Dansette, après cette très belle victoire contre Zvenigorod et cette qualification pour le Final Four, ton avis ?
Oh bah forcément, on est très contente de s'être qualifiée ce soir. C'était pas un match facile. Après, on avait cet objectif-là aussi pour le club qui est en train de grandir et qui promet de belles choses pour l'avenir. Et je pense que cette victoire fait du bien. Après, on n'oublie pas ce qu'il nous reste à faire jusqu'à la fin de la saison. On est contente d'être qualifiée pour le Final Four, mais il y a encore beaucoup de choses à venir, donc on va pas se relâcher.
Est-ce que c'est une première pour toi ou tu as déjà été sur un Final Four avant ?
Non, j'ai jamais joué la Ligue des Champions et du coup en Coupe EHF, il n'y avait pas de Final Four jusqu'à cette année. Alors c'est une nouveauté, donc c'est encore mieux. Et pour moi, ce serait une grande première ce Final Four.
Et sur ce Final Four, qui est-ce que tu préfères jouer d'abord, puisque tu auras deux matchs à jouer ? Est-ce que c'est plutôt les Hongroises, les Danoises ou les Roumaines ?
Alors là, une fois qu'on est au Final Four, je pense que toutes les équipes se valent. Sur un match, tout le monde peut battre tout le monde. Donc, peu importe, on verra le tirage au sort. On se fait pas des montagnes de ces matchs-là. Il faudra prendre l'équipe qu'on aura à prendre et puis essayer de se qualifier pour la finale.
Entre les deux, il y a un match mercredi en Coupe de France avec, en cas de victoire, un match, une demi-finale à domicile contre Nice.
Oui, cette semaine... pour moi, est une semaine hyper importante. On a fait quelques erreurs en championnat et on n'a plus le droit à l'erreur. Donc le match de samedi à Bourg-de-Péage est vraiment un match très, très important. Il ne faut pas qu'on le perde, celui-ci. On sait ce qu'on doit faire. Et voilà. Il ne faudra pas se poser 10 000 questions. Il faut qu'on gagne là-bas. Après, le match en Coupe de France, forcément, avec le tirage des demi-finales, on a envie de passer. Et voilà, en tout cas, nous, on va jouer. On a envie de tout gagner. Donc, on a envie de jouer sur toutes les compétitions. Et on va se donner à fond pour gagner et mercredi et samedi. Et tous les autres matchs pour se qualifier aussi pour une Coupe d'Europe l'année prochaine.
Alors, je vais vous donner la réponse. Non, elles n'ont pas perdu à bourre de péage puisque le match était reporté pour cas de Covid chez les péageoises. Et la réponse pour la Coupe de France, eh bien oui, Nantes a gagné à Fleury 25-19, donc jouera le 24 avril à 18h contre l'OGC Nice pour une place en finale contre le vainqueur de Metz-Brest. Donc c'est magnifique. Ouais.
Et on sait où c'est la finale, la Coupe de France ?
Normalement, c'est à Bercy.
Ouais.
Mais est-ce qu'ils vont pas tout changer ? En handball, en fait, on a toutes les finales normalement. Enfin, c'était comme
oui,
ça.
Oui, à Bercy.
On avait toutes les week-ends, toutes les finales sur le même week-end.
Oui, je m'en
rappelle. Et puis, du coup, bah, on ne sait pas si ça sera comme ça. En tout cas, c'est leur prochain match aux Nantaises, la réception de Nice. En tout cas, une super saison pour saluer ces grandes joueuses qui vont arrêter. Donc on espère qu'elles arriveront à gagner quelque chose.
Allez, on va enchaîner avec les autres clubs nantais. Antoine, c'est Score en Stock.
Money Time. Score en Stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en Stock. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et dans le score, on va commencer avec les Corsaires.
Exactement, hein. Et une nouvelle victoire. Les Corsaires n'arrêtent pas de gagner. Ils ont été gagnés chez les Bisons de Neuilly 5-4 avec deux buts de Karl Léveillé, un but de Brendan Hamelin, un but de Benjamin Lardière et un but de Mathieu André. Pardon. Des Nantais qui sont au taquet et qui recevront samedi à la patinoire du Petit Port d'autres Corsaires, ceux de Dunkerque.
Et avec cette victoire assurée donc de jouer le Final Four, hein, puisqu'on connaît maintenant la formule pour cette première division de hockey, il y aura un Final Four avec, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, malheureusement, pas de montée.
Exactement. Alors, il faut toujours terminer le mieux au cas où un club déposerait le bilan ou à X raison en Magnus.
On ne sait jamais.
En croisant les doigts, en espérant que Nantes ait le budget aussi. C'est toujours pareil. Et...
est-ce que les joueurs ils gardent la motivation ? Ils savent les joueurs qu'ils n'ont pas de montée. C'est compliqué quand même quand tu joues une saison et que t'es premier.
Je t'emmènerai écouter les discours du prêcheur Martin Lacroix, leur coach. Tu comprendras que tu gardes la motivation. Non, ils sont hyper motivés.
Ouais, c'est
et
bien,
puis
bien.
On a envie de voir ce match contre les Spartiates de Marseille qui sont bien en tête de la poule sud. Où ça sera un très beau match. Et puis Nantes ne peut jamais être champion de D1, je crois, enfin, sous cette formule-là.
Allez, on enchaîne avec le volley et les volleyeuses.
Exactement. Alors, c'était un petit peu le match, allez, on va dire, plage. Nantes jouait contre France Avenir. Donc, il faut savoir qu'en volley, que ce soit les garçons ou les filles, il y a une équipe qui est faite, qui ne monte pas, qui ne descend pas, mais où on envoie tous les jeunes de Pôle Espoir pour s'aguerrir avec des équipes de haut niveau. Et du coup, pour le coup, c'était le match du VBN. Donc, Cyril Hong a fait pas mal tourner. Ça nous a permis de voir des joueuses comme Lou Meyer, la sœur de
Léo.
De Léo, exactement. Ou Rose, ou même Emma Leroux, la sœur de... j'ai plus son prénom, mais grand joueur de volley aussi.
Kevin Leroux.
Ah, Kevin, merci. Exactement. Voilà, j'ai tellement français. Vu que j'avais plus son nom en tête. Et du coup, les Nantaises ont fait un très beau match. Elles gagnent 25-10, 25-11. 25-17, et le grand plaisir, c'était que la joueuse élue meilleure joueuse du match, pardon, c'est Emelda Piatta-Zessi, la Camerounaise, qui pour elle avait l'occasion aussi d'être présente et de reléguer ses collègues sur le banc. Et on va l'écouter. Avec Emelda Piatta-Zessi, après cette victoire, belle victoire, 3-0, et vous-même élue joueuse du match. Qu'est-ce que vous retenez sur tout ce match ?
On peut dire que ça a été un match assez, je n'ai pas dit facile parce qu'elles ne sont pas venues pour jouer ou pour s'amuser, mais elles sont venues aussi pour arracher une victoire, quelques points. Mais je crois qu'on a mis tout l'équipe a mis tout nos points forts ensemble pour faire en sorte que tout se passe bien et voilà, on a eu cette victoire.
Alors coach, justement, on vous a donné l'occasion de pouvoir avoir du temps de jeu. Vous aussi, quelques autres jeunes joueuses, c'est un plaisir de pouvoir montrer ce qu'on sait faire quand on a l'occasion.
C'est toujours un plaisir de montrer ce qu'on peut faire pendant un match, surtout quand on s'entraîne beaucoup. Et c'est toujours bien pour une joueuse d'appliquer ça pendant les matchs et de ressortir ce qu'elle a appris pendant les entraînements. Et, voilà.
Il vous restera deux matchs pour finir la saison qui auront lieu ici. On vous verra aussi.
J'espère bien, Je vais saisir ma chance comme d'habitude. Voilà.
C'était votre anniversaire, je crois que vous l'avez bien fêté.
Ah oui.
Donc, bravo à vous.
Merci beaucoup. Merci.
Donc les matchs qui restent pour le VBN, c'est la réception du RC Cannes samedi prochain à 20h. Et puis il y aura le dernier match contre Saint-Raphaël mercredi 21 à 19h. On sait qui est champion, c'est la SPTT Mulhouse qui a été gagnée chez son dauphin Béziers 3-1.
Pas de play-off pour les volleyeurs cette année.
Non, il n'y a plus de play-off.
Champion en saison régulière.
Comment ça se fait ça? Parce que chez les garçons,
ils ouais, mais ils avaient décidé d'avance par rapport, pour ne pas surcharger le calendrier, de ne pas faire de play-off. Bon, après, le meilleur a gagné chez le deuxième. Hein. Match interrompu pendant plus d'une heure puisqu'il pleuvait à la salle du four à chaud.
Et le VBN en liste pour quand même la place de dauphin.
C'est presque mort. Donc, ce sera plutôt la troisième place.
Pas de Ligue des Champions l'année prochaine.
Coupe d'Europe, mais pas de Ligue des Champions.
Très bien, c'est noté. Allez, d'autres résultats.
Un tout petit mot. On va rester dans le volet, puisque je suis, moi, Saint-Nazaire. Saint-Nazaire qui joue ses finales aller et qui a perdu 3-7-0 à la grande surprise face au Hibou du Plessis-Robinson. La finale aller, donc on espère qu'ils gagneront la finale retour. C'était le scénario qui avait eu lieu il y a deux ans. Saint-Nazaire avait gagné ce premier match contre Paris. Allez, Paris volait et perdu les deux suivants. On espère que le scénario va se répéter, mais dans le sens de Saint-Nazaire.
C'est sûr.
Et le vainqueur prendra donc la place d'Ajaccio en Liga.
Voilà, et moi je veux des derbies
absolument
la saison
prochaine.
NRMV
Saint-Nazaire, ça
et ben on les encourage.
Ça sera à la soucoupe pour Saint-Nazaire et à la Trocardière pour Nantes.
On a été complet.
Pour moi, oui.
Alors, on enchaîne sur le reste de l'actu sportive, Antoine, c'est Multizone.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on parle de cyclisme avec toi, Charles. Alors, comme tu veux, Tour du Pays Basque, Grand Prix de l'Escaut, on commence comme tu veux.
Eh bah, c'était, on va commencer par le Tour du Pays Basque.
Beau plateau, hein.
Ah bah, très beau plateau. On avait du Roglic, du Pogacar, du Adam Yates,
du Godu.
On avait vraiment de la très
ouais,
haute
des
qualité.
Favoris, des seconds couteaux. Il y avait un beau plateau et un champion, bah, encore une fois.
Et à la fin, c'est un Slovène qui gagne. On va se répéter souvent, mais c'est soit Pogacar, soit Roglic.
Bon,
cette
remarque,
fois,
celui-là, il n'a pas perdu sur la dernière journée, mais il a gagné sur la dernière étape.
Voilà. Et ça, c'est beau.
Sans gagner la dernière étape, puisqu'il a laissé à David Godu, qui l'a bien aidé à aller chercher le maillot de vainqueur.
Bon, alors, c'était pas un parcours non plus d'extraterrestre. Hein,
Non. C'était un bon petit parcours basquois. Et on a eu une première contre-la-montre remportée par Roglic. Voilà, on le connaît ses qualités. Facilement, ouais. En plus d'ailleurs, il a bien mis un écart par rapport aux autres favoris comme Pogacar.
Ouais, il prend le jaune le premier jour.
Ouais, exactement. Et après, bah, il le perd au profit de McNulty, le jeune américain de la UAE Team Emirates. Qui fait, parce qu'en fait, ils se sont un peu regardés avec Pogacar. Et finalement, McNulty l'a pris. Puis après, bon, il l'a repris sur la dernière étape parce qu'il était le plus fort. Il n'y a pas de surprise en soi. On connaît Roglic, on connaît ses qualités. Et ça, c'est bien pour lui parce qu'il avait perdu. C'était le Tour de la Provence, je crois qu'il avait perdu le maillot.
Paris-Nice.
Sur la dernière étape.
Ouais.
Et par contre, David Godu, moi j'aimerais quand même souligner sa performance parce que là, il gagne. Il fait 5e au général. Bon. Mais surtout à cause du premier jour, là, on sait que le contre-la-montre, c'est pas forcément son fort. Donc il s'est quand même un peu loupé au contre-la-montre. Mais dès que ça a commencé à monter, il a été super impressionnant.
Parce que tu dis parcours pas difficile. Alors certes, il n'y a pas de haute montagne, mais c'est le pays des répétitions. Donc ces petites bosses bien sévères et qu'on enchaîne. Donc il faut quand même avoir des sacrés mollets. C'est le cas de Godu qui représentera la Groupama au Tour de France.
Exactement, et ça sera le leader
avec
de la
Desmar.
Groupama. Donc,
ça sera plus Arnaud Desmar qui sera le grand leader, mais pour la montagne, ça sera David Godu, effectivement. Et à noter, c'est la deuxième place de Jonas Vingegaard, le jeune Danois de la Jumbo-Visma, un doublé de Jumbo-Visma, qui a seulement 24 ans, donc il est encore très jeune. Et on sent que la Jumbo-Visma est encore cette année, seront très très présents sur les grands tours avec le nombre de coureurs de montagne qu'ils ont.
Et Pogacar qui referme ce podium, hein, je crois.
Et Pogacar qui fait troisième, effectivement.
Troisième. Alors, pas de Paris-Roubaix cette semaine, mais le Grand Prix de l'Escaut.
Exactement, Paris-Roubaix qui a été reporté en octobre.
Ouais, donc, bon, bah, c'est toujours ça de prix. On aura ça en octobre, peut-être dans des conditions dantesques, et on verra.
Et ça, bah, ça peut faire un beau Paris-Roubaix, ouais, sachant qu'on n'en a pas eu l'année dernière. Donc,
mais Grand Prix de l'Escaut et la victoire, bah, encore de Koenig Quickstep. Hein.
Non.
Non.
Non, c'est Jasper Philipsen.
Ah, bah voilà, okay. Tu vois.
Le coureur de la Alpecin Phoenix. Qui,
oui,
coéquipier de Mathieu, ouais.
Mathieu Van Der Poel, qui voilà. La remporte devant deux de Koenig Quickstep, à savoir Sam Bennett et Mark Cavendish. Donc, ils avaient mis un peu la grosse armada là, de Koenig, et finalement, bah, ils n'ont pas réussi à se défaire de Jasper Philipsen, le sprinter. Ouais, qui a réalisé un très bon sprint.
Pas alors, content en conf de presse. Hein.
Tu parlais de la de Koenig Quickstep, et moi, je voulais saluer le retour de... du coureur hollandais de la De Koenig Quickstep,
Fabio Jacobsen.
Ah oui, voilà, exactement, merci. J'allais le dire, qui a été défiguré suite à une chute.
Et le pauvre, il lui manque quelques dents, mais il a repris cette semaine au Tour de Turquie.
Exactement, et d'ailleurs...
Avec Dylan Groenewegen qui le fait aussi, non?
Non, il prendra plus tard au Tour de Hongrie.
Oui, ouais.
Mais il est un peu déstabilisé aussi...
C'est assez impressionnant hein, de remonter sur le vélo. Hein. Bah j'ai vu les images, c'est vraiment violent et il a
encore
quelques séquelles hein, sur le visage. D'ailleurs, on le voit.
Il lui manque quelques dents.
Il a perdu quasiment tout. Enfin, il avait perdu toutes ses dents.
Ouais, je sais plus combien de points de suture il avait eu, mais
c'était vraiment horrible. Sachant que bah, du coup, l'étape du Tour de Pologne qui est en question, qui a posé problème, a été supprimée, entre guillemets. Ils vont la remplacer par une autre arrivée.
Est-ce qu'ils changent les barrières aussi?
Ils changent les barrières et tout, ils vont tout changer. Et à noter que du coup, qui reprenait sur le Tour de Turquie, et bah, il a félicité Mark Cavendish, qui a remporté la deuxième étape du Tour de Turquie.
Enfin, ça y est.
Enfin, trois ans après sa dernière victoire, lui qui hésitait à mettre un terme à sa carrière, qui a pris en charge son salaire pour venir à la De Koenig Quickstep, et bah, ça fait plaisir. Ça fait 137 victoires.
Il court pour qui, lui, déjà? Israël, non?
Et donc, Fabio Jacobsen l'a bien chaleureusement et tout salué cette victoire de Mark Cavendish.
Ouais, et sur l'agenda, on a la Flèche Brabançonne, si j'ai
mercredi.
Et dimanche, l'Amstel Gold Race, non?
Amstel Gold Race, il me semble, j'ai regardé ça tout de suite.
Ou Liège-Bastogne-Liège, mais en tous les cas, il y a une classique qui arrive dimanche. L'Amstel.
C'est l'Amstel et la Flèche la semaine d'après avec Liège-Bastogne-Liège.
D'accord, donc ça y est, on est rentré dans Ardennaises.
Flèche-Brabançonne, Amstel Gold Race, Flèche-Wallonne,
Liège-Bastogne-Liège. Voilà, on est bon.
Et Paris-Camembert qui sera la semaine prochaine. Cette semaine.
Fini le vélo, on parle de rugby, la Champions Cup avec les demi-finales qui vont ressembler aux demi-finales du top 14 quasiment.
C'est ça. Hein. C'est ça.
Bah, c'est à peu près ça parce que finalement, les équipes françaises ont toutes gagné. Quand il s'agissait d'être contre des équipes...
Il y en avait 5 sur 8 au départ. Hein.
5 sur 8, donc il y a beaucoup de possibilités. Deux rencontres franco-françaises avec Clermont et face à Toulouse, qui recevait Toulouse. Ça a été un duel de pénalité hein, avec la victoire finalement à la bout de Toulouse, 21-12, avec un très bon Romain Tamac.
Ouais, 21 points.
Millium du match.
Comme d'habitude, et il y a un truc qui ne défraie pas. Toulouse n'a jamais perdu contre un club français en Coupe d'Europe.
Exactement. Ça, c'est hallucinant, ouais.
Donc, eux qui ont tiré Bordeaux-Bègles.
En plus, ça sera à Toulouse.
Et alors à Toulouse. Bordeaux-Bègles, pareil, contre le Racing, ça s'est joué que au pénalité.
Ça s'est joué
pareil,
24-21.
Avec Jalibert, à la 82e.
Et à noter, je ne sais pas si vous l'avez entendu, la conférence de presse d'après-match de Christophe Ourios. C'est une masterclass. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-la.
Si, 4 bières.
Et à noter, il y a eu quand même quelques surprises. Hein. Exeter, le tenant du titre,
exactement.
Qui perd contre le Leicester. Hein,
Leinster.
Attention à ne pas confondre.
Oui, parce que c'est pour ne pas confondre avec Leicester, les Anglais. Les Irlandais de la province de Dublin qui s'imposent, qui pourraient être la mauvaise surprise s'ils vont jusqu'au bout.
Oui, ils jouent la Rochelle.
Sachant que...
ils vont à la Rochelle.
Ouais, ils vont à la Rochelle. Ils vont à donc pour cette demi.
S'ils gagnent en finale, Toulouse et toutes les autres équipes françaises qui se feraient battre, pourrait l'avoir mauvaise puisqu'ils auraient dû jouer leur quart de finale, huitième, pardon, contre Toulon, sauf que le match n'avait pas eu lieu avec une annulation
avec les cas de Covid et le
jour même du match.
La non-possibilité de faire le report du match a entraîné la défaite
mais il y avait vraiment une mauvaise... Ah oui, franchement, ils ont été malhonnêtes au niveau de...
Ah, ils étaient arrivés en Irlande et puis finalement...
On leur a dit non, puisqu'on leur a dit, ils sont qu'à contact. Moi, j'étais d'accord avec la colère de Bernard Lemaitre suite à ça, parce qu'on oblige des gens à se déplacer pour leur dire non. C'est irresponsable de la part de l'EPCR. Pour en finir,
le Leinster qui ira à La Rochelle, qui a battu Sale facilement avec plus de 20 points d'écart.
Et Toulouse donc ira à Bordeaux.
Recevra Bordeaux.
Donc si Rochelle bat Leinster, c'est bon, on a à coup sûr un champion d'Europe français.
Alors attention, c'est pas fait parce que c'est déjà arrivé trois fois dans l'histoire. Il me semble en 77, en 88 et en 2005.
Non, bien après, parce que ça date de 95 la Coupe d'Europe. Non.
17.
96. Il y a juste en 2005 où Toulouse s'était imposé quand il y avait trois équipes françaises dans le dernier carré.
Deux fois et deux fois. Ça marchait deux fois. Toulouse qui va vers son cinquième titre européen, ça serait le record.
Et ça serait logique parce que franchement, ils ont une équipe.
Moi, je voudrais que ce soit La Rochelle.
Ah, bah oui,
Les Maritimes, en attendant le retour de Vannes en top 14, mais là, ils ont perdu leur première place, malheureusement.
Ils l'ont repris.
Ça, c'est la bonne nouvelle.
Masterclass de Vannes qui a réussi à reprendre cette première place.
Un petit point d'avance sur Perpi.
Exactement. Et d'ailleurs, la finale de Pro D2. Qui a été souligné par l'entraîneur de Vannes,
Jean-Noël Spitzer.
Exactement, qui se jouera à Montpellier, qui est juste à côté de Perpignan. Alors, ça a fait un peu polémique.
Attention, mais il faut rappeler qu'il y a d'abord des demi-finales entre. C'est les six premières équipes. Donc, il y aura des matchs entre 3, 4, 5, 6. Et puis après, ça sera donc si Vannes devrait et Perpignan devraient garder leur place de demi-finaliste. Mais effectivement, si on suit le scénar, ça peut se retrouver à se jouer...
Moi, il me semblait que le premier montait dans tous les cas, non ?
Non,
c'est plus ça ? Ça change.
D'ailleurs, Montpellier a gagné aussi, alors je ne saurais plus vous dire...
C'est une demi-finale.
Les seuls Français qualifiés en demi-finale de Challenge.
Allez, un mot de golf, puisqu'il y avait un master hier, le premier master du calendrier, la victoire est revenue à Matsuyama.
Hideki Matsuyama, le japonais, le premier japonais à remporter un majeur.
Parle de lui pour porter la flamme olympique,
maintenant. Ça lui ne plairait pas, apparemment.
Et endosser la fameuse veste verte.
Exactement. Et c'est vraiment, on peut dire, est-ce qu'il avait moins de pression ?
La confirmation pour lui, déjà. Ouais.
Dix ans auparavant.
C'est historique, mais ce n'est pas un exploit.
Ça reste un exploit quand même, parce que ça fait quand même, c'est seulement le premier asiatique à remporter le Masters.
Pas asiatique,
Japonais.
Japonais, c'est le premier japonais à remporter le Master. Il y avait déjà eu Kim, un coréen. Il y a déjà eu des coréens qui ont eu des...
C'était le deuxième alors, c'est que le deuxième.
Mais c'est en tous les cas le premier japonais. Et puis derrière lui, les autres favoris ne seront pas au rendez-vous. On a dit Dustin Johnson qui passe pas le cut. Justin Thomas, lui qui craque le dernier jour. La bonne nouvelle, c'est Spieth qui, après avoir gagné le Valero Texas Open... qui prend la troisième place master.
Troisième place égalité avec Xander Schauffele. Xander Schauffele qui n'était pas assez loin parce qu'il fait 4 birdies sur le 13, 14, 15, 16. Non, du coup, 12, 13, 14, 15. Et sur le 16, il se craque complètement. Alors qu'il était à un coup de Matsuyama à ce moment-là, donc c'était vraiment
quelle
dommage pour lui.
Quelle est sa nationalité à Xander Schauffele ?
Américain.
Américain, mais des parents allemands et des grands-parents allemands et français pour la petite histoire. Donc il y a un peu de tout ça.
Ça a été bien parce que Victor Pérez, notre français, qui n'a pas réussi à passer le cut.
Comme d'autres, ça n'a pas été le seul. Et parmi les anciens vainqueurs du Master, seul Olazabal. José Mario Olazabal a passé le cut. Les autres sont restés à quai. La semaine prochaine, c'est le RBC Heritage sur le parcours d'Arbourton à regarder. C'est un super parcours qui se défend lui aussi très bien.
Et du coup, on peut aussi quand même noter la belle performance pour la première fois en master de Will Zalatoris, l'américain. Ouais.
Le rookie qui vient du Korn Ferry Tour et qui fait un début de saison sensationnel et avec cette deuxième place, va faire parler de lui, c'est sûr, dans les années à venir. Bon, on en a terminé pour cet épisode 16, les garçons. On va rendre l'antenne.
Et merci beaucoup à toutes et à tous et bonne soirée.
Et on vous dit à lundi prochain.
Bonne soirée. Ciao.